Surprise d'abord de ce texte choisi pour nous ce matin, celui de la naissance de Jean-Baptiste. Chronologiquement, nous faisons en effet un bond en arrière après Pâques et Pentecôte. Avec Jean-Baptiste, nous revenons à l'avant-Noël, à l'avant-naissance de Jésus, aux prémices de l'arrivée du Sauveur. Mais le temps biblique et le temps de la foi ne se définissent pas en chronos, c'est-à-dire en grec le temps linéaire, mais en kairos. Le kairos en grec est le temps sans montre, sans jour ni nuit. Le kairos, c'est le temps favorable, le temps attendu, le bon moment. Ainsi, pour les biblistes qui ont choisi pour nous ce texte, c'est le bon moment de parler de l'avant Jésus avec la naissance de Jean-Baptiste, son cousin, qu'il a précédé et annoncé. En plus, en ce moment, avec ces températures estivales et les vêtements légers, il est touchant de remarquer, en se promenant, tous ces ventres ronds, promesses de vie nouvelle. Alors oui, le temps est opportun pour parler de naissance. Tout cela sans compter, et peut-être certains d'entre vous ont envie depuis le début de m'interrompre, sans compter bien sûr que dans la tradition chrétienne catholique, le 24 juin est la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Alors tout s'explique. Je dois vous avouer que ce lien ne m'était pas venu du tout à l'esprit quand j'ai préparé la prédication, jusqu'à ce que j'en discute avec mon mari, qui me l'a fait remarquer. Qu'est-ce qu'il est bon d'échanger, n'est-ce pas ? Les lectures proposées pour chaque dimanche le sont par une équipe écuménique. Et nous entendons bien alors ce choix pour ce jour du 24 juin. Nous sommes donc dans l'évangile de Luc. À la différence des autres évangiles, Matthieu, Marc et Jean, Luc n'est pas juif, mais grec. Et il n'est pas non plus un disciple de Jésus. Luc est un compagnon de Paul et même son médecin particulier. Luc est un scientifique et son évangile s'en ressent. Il écrit à la façon d'un historien en rassemblant les faits et les preuves. Son évangile, imprégné de sa culture grecque, est destiné aux païens. À l'inverse de Matthieu, par exemple, il n'y a pas de référence à la culture et aux rites juifs. Vous le savez, chaque évangile a sa spécificité, sa couleur particulière. Et cela, déjà pour nous montrer que le message de Jésus est pour tous et chacun, quelle que soit son origine. La bonne nouvelle est appelée à être partagée à tous, pour chacun dans son propre milieu. Vous le savez, l'auteur de l'évangile de Luc a aussi rédigé le livre des Actes, dont nous avons entendu quelques versets. Et ces deux livres, d'ailleurs, ne pourraient en former qu'un seul, sur l'histoire de Jésus et celle des premiers chrétiens. L'auteur s'adresse à un certain Théophile, qui signifie en grec « l'ami de Dieu », et dont on ne sait rien du tout. Alors, nous pouvons penser qu'ainsi l'auteur veut s'adresser dans ses deux livres à toutes celles et ceux qui sont amis de Dieu. Dans notre passage, nous sommes à la fin du chapitre 1. Alors le livre, l'évangile de Luc, débute avec d'abord une présentation du livre par son auteur, puis une présentation de Zacharie, prêtre de la grande famille d'Aaron, et de sa femme, nommée Élisabeth. Notez que les prêtres à cette époque avaient une vie de famille. Ils sont tous les deux d'âge avancé et sans enfants. L'ange du Seigneur, est-ce que vous vous rappelez le nom de l'ange du Seigneur qui apparaît à Zacharie ? Gabriel. L'ange apparaît à Zacharie et Zacharie a peur. L'ange lui annonce qu'ils vont avoir un enfant et qu'ils le nommeront Jean. Il sera quelqu'un d'important, sujet d'une grande joie et messager de Dieu. Mais devant ces faits incroyables, Zacharie met en doute la parole de l'ange. Et pour cela, que se passe-t-il ? Il devient muet. Et ce, dit l'ange, jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé, dit l'ange à Zacharie. Et voici ici le kairos, le temps favorable, le temps de Dieu. Puis le chapitre 1 se poursuit. Élisabeth est enceinte de 6 mois quand Marie devient à son tour destinataire de la parole de l'ange. 6, c'est le chiffre biblique symbolique de quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé, qui est encore en attente. Nous voici alors ici avec Marie dans un second récit, construit en parallèle du premier. Apparition de l'ange, mais dans la famille de David cette fois, surprise de Marie, annonce de la venue d'un enfant impossible et description de cet enfant. Personne ne sera aussi important que lui, il sera le roi du peuple d'Israël, son pouvoir durera à toujours. Comme Zacharie, Marie met en doute la parole de l'ange. Mais au contraire de Zacharie cette fois, pas de sanction, mais une douce explication de l'ange. L'Esprit Saint sera sur toi, dit-il à Marie. La puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. L'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Ici, en quelques versets, le changement opère. Nous passons de l'image de Dieu du Premier Testament qui appelle son peuple récalcitrant et qui, pour l'aider à comprendre, le reprend, au Dieu de Jésus-Christ qui accueille, écoute et accompagne avec des paroles de vie. Marie, pour avoir douté, ne deviendra ni sourde ni muette, elle recevra le Saint-Esprit. Quelle parole ! Marie, pour avoir douté, ne deviendra ni sourde ni muette, elle recevra le Saint-Esprit. Voilà. Alors que le Fils de Dieu n'est même pas encore dans le ventre de Marie, que la bonne nouvelle par l'ange Gabriel est déjà proclamée, avec un renversement et une force sans pareil. Le Dieu de Jésus-Christ choisit désormais de se faire proche, sans jugement, pour que nous recevions pleinement et en vérité sa vie. Puis le chapitre continue. Avec le beau passage de la visite de Marie à Élisabeth, sa cousine, avec des partages explosifs de joie et de bénédiction. Et enfin, nous arrivons à la lecture de ce matin. Élisabeth accouche, et selon la tradition, c'est le moment de la circoncision, le 8e jour. C'est le temps où le nom de son père doit lui être attribué. Mais Élisabeth demande à l'appeler Jean et Zacharie confirme son nom est Jean. La bonne nouvelle est encore là. La confiance en Dieu ne se vit plus comme une transmission, une culture familiale, mais désormais suivre Dieu se décide librement par un choix intime. Ainsi les premiers, même avant Marie, Élisabeth et Zacharie accordent leur confiance au Dieu de Jésus-Christ qui leur demande de croire au plus profond de leur être sans s'occuper des conventions. C'est alors que Zacharie retrouve la parole en ayant choisi de témoigner de sa foi. Écrire son nom et Jean signifie pour lui que malgré les apparences et les traditions, malgré les pressions religieuses et familiales, il choisit librement de suivre son Dieu. Élisabeth et Zacharie, avant même la naissance de Jésus, parlent déjà de l'immense bouleversement qui attend le peuple d'Israël et le monde. Et Zacharie chante. Désormais, chante-t-il, le Dieu de nos pères, de David et d'Abraham, est plein de tendresse et de bonté. Il vous sauve. Chaque jour de notre vie, nous pourrons le suivre sans avoir peur. Sa lumière éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. C'est aussi ce que le passage du livre des Actes nous a rappelé. Le premier effet de la bonne nouvelle chez Luc, c'est un chant. Vive la chorale. Chanter, c'est prier deux fois, disait Luther. Alors, comme Zacharie, plein de l'esprit reçu, que dans nos cultes et à la maison, que sous la douche et à la montagne, nos chants joyeux et nos cris d'allégresse soient témoignage de la bonne nouvelle. Il y a de la joie, c'est d'ailleurs le titre, le thème du concert de notre chorale vendredi prochain. Cet enfant, Jean, premier témoin de la joie de la venue de Dieu au milieu de nous, est celui qui va marcher devant pour préparer le chemin, en annonçant au peuple que Dieu sauve en pardonnant les péchés. Et Jean choisit d'abord le silence pour vivre son ministère très particulier, seul au désert. Puis c'est la fin du premier chapitre chez Luc, et le chapitre 2 poursuit avec la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons Jean, habillé avec un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir, se nourrissant au désert de sauterelles et de miel sauvage. Les quatre évangiles identifient Jean à la voix qui crie dans le désert, selon les paroles du prophète Ésaïe, à celui qui annonce la venue du Fils de Dieu pour les hommes. Jean, c'est celui qui pratique au désert le baptême d'eau, signe symbolique de mort et de nouvelle vie purifiée. Et c'est à ce moment-là qu'il prend le surnom de Jean le Baptiste. Jean baptisera son cousin Jésus, qui le lui demandera. Et malgré sa réticence première, « Je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. Lui vous baptisera avec le feu de l'Esprit. » Puis Jésus, en effet, le Messie reconnu par Jean-Baptiste, invitera au baptême d'eau et d'esprit, à ce geste qui manifeste la venue de Dieu au plus profond de nos existences. Et Jean-Baptiste mourra tristement. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, il est emprisonné, puis décapité par Hérode, plutôt suite à un ordre d'Hérode, à cause d'une promesse de ce dernier, ivre, à sa belle-fille. La fête de Jean-Baptiste du 24 juin pour nos amis catholiques est symbole de celui qui a reconnu le Seigneur, s'en est réjoui et l'a annoncé. Dans notre Église protestante, nous ne célébrons pas les saints, mais cela ne nous empêche pas, heureusement, de reconnaître la foi des premiers témoins de Jésus-Christ et de les voir comme des petites lumières sur nos chemins. Ce matin, par cette histoire de la conception, de la naissance et de la vie de Jean le Baptiste, la bonne nouvelle nous interpelle. Seigneur, donne-moi de tressaillir de joie en te reconnaissant, rempli de tendresse et de bonté, venir vers moi. Dieu Père, permets-moi de recevoir librement et au plus profond de mon intimité ta parole qui bouleverse et met debout chaque jour pour une vie renouvelée. Souffle Saint, ouvre mon chemin et conduis ma route pour annoncer encore et toujours ton royaume de paix et d'espérance. Ton temps, Seigneur, n'est ni celui des montres, ni celui de nos églises. Quand ton temps, chaque chose s'accomplisse. En ton nom. Amen.